On a été approchés récemment à la radio par deux dames de la région, Monique Chabot et Isabelle Perrier, qui, dans le cas de Monique, est intervenante sociale et qui est bien connue. Elle a été mentor pour bien des gens de la profession. Et Isabelle Perrier, qui est travailleuse sociale, donc, ici dans la région. On vous parle aujourd'hui parce que vous êtes tous deux auteurs d'un chapitre d'un ouvrage qui s'appelle « L'intégration de l'évaluation du fonctionnement social au champ de pratique ». Ça, c'est un ouvrage qui a été fait en collaboration avec LUCO et c'est pour les intervenants sociaux. Et c'est vraiment... un chapitre qui est dédié à comment adapter nos services à la réalité autochtone, à la culture. Dans le fond, c'est dans le respect des Autochtones, adapter nos services. Et je pense que c'est nécessaire parce qu'on a eu plein d'histoires, je dirais, d'horreur. On pense à Mme Échaquan, mais ça va plus loin que ça. Puis tu sais, là, on parle des services sociaux, mais on a entendu des histoires avec la Sûreté du Québec qui traite les Autochtones, particulièrement les femmes, des fois, de façon différente. Donc, je pense que si on s'attarde ici au travail social, je pense qu'en général, ça pourrait être bon pour beaucoup de corps de métier. Donc, Mme Monique, bonjour.
Bonjour.
Mme Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Puis, parlons de cet ouvrage-là parce que c'est nécessaire dans le cadre d'une réconciliation, d'adapter nos façons de faire, de s'entendre, de bien travailler ensemble. C'est le but de l'ouvrage, ni plus ni moins, là.
Absolument. La publication et le travail de ce chapitre-là, c'était de mettre en lumière des pratiques qui se sont développées beaucoup au courant des dernières années et par des collègues, des pionnières, des pionniers qui ont fait en sorte qu'ils ont fait avancer les pratiques autant dans les champs sociaux, mais aussi... je dirais pas médicaux, là, mais dans tout ce qui touche les échanges et ce qui touche les services donnés à la population là, en contexte autochtone.
Vous êtes, Mme Chabot, issue de la communauté de Kitigan-Zibi. Je le disais tantôt, vous avez été une mentor. Et cet ouvrage-là est destiné aux nouveaux qui vont faire cette profession-là dans le futur. Donc, j'imagine que c'est le fun, c'est rafraîchissant pour quelqu'un qui en a vu passer beaucoup, de dire, regarde, les prochains qu'on va former, on va les former un peu à notre façon, avec notre réalité, avec notre expérience, l'histoire qu'on connaît, pour repartir sur des bonnes bases. J'imagine que c'est vraiment le fun, ça.
Oui, c'est plaisant. Mais l'idée est venue parce que j'ai travaillé, mon Dieu, je pense au-dessus de 20 ans pour les services sociaux dans le temps que c'était la Direction de la protection de la jeunesse. Et étant Première Nation moi-même, j'ai eu le plaisir de travailler avec des intervenants comme Isabelle, d'autres qui sont présentés au bureau, qui ont travaillé avec nous, mais qui trouvaient ça difficile. Donc, l'idée est venue avant la commission de vérité et de réconciliation, quand j'ai vu que dans mon expérience, dans mon travail, en accompagnant les intervenants, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas nécessairement adaptées aux Premières Nations, au mode de vie des Premières Nations et les impacts de l'école résidentielle. Donc, on avait déjà commencé à faire des adaptations. Premièrement, une des grandes barrières qu'on a... Un des enjeux, c'est que ici, c'est le lac Rapide et la communauté de Kitigan-Zibi qui sont tous les deux anglophones.
Mm-hmm. Donc, la barrière de la langue.
Oui. Et la langue, c'est l'anglais. Au lac Rapide, c'est algonquin. Donc, a voulu faire des changements au point de vue de la documentation un peu, l'approche. On utilise maintenant, dans le temps que j'étais là, maintenant, je suis retournée dans ma communauté à moi, à Kitigan-Zibi. Mais surtout d'adapter les outils de façon dont ils sont compris par les gens des Premières Nations, comme les plans d'intervention, par exemple. On avait développé un modèle qui utilisait la roue traditionnelle et qui établit les besoins physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Et ils ont des besoins de base. Donc, on utilisait aussi des médecines traditionnelles, la façon de faire, s'asseoir et discuter avec les familles élargies, les personnes significatives de la famille et les enfants en cercle. Ça pourrait se faire dans des bureaux, dans des maisons, à l'extérieur. Donc, ces adaptations, j'y crois encore, même si je ne suis plus dans ce domaine-là, mais je crois que ça avait vraiment rapproché les intervenants avec les familles.
Ça doit améliorer le taux de succès, là. Tu sais, je veux dire, quand on est travailleur social, intervenant social, le lien avec notre, j'aime pas le client, là, mais la personne qu'on aide, c'est primordial. Puis s'il y a une barrière de langue ou de culture, ben on part du mauvais pied, là.
Oui, exactement.
C'est... Absolument. Et puis, en fait, c'est un peu la base de l'ouvrage. C'est de démontrer à quel point la posture à adopter auprès d'une clientèle issue des Premières Nations Inuit Métis, c'est exactement dans la posture de l'intervenant. Parfois, on va mettre la faute ou le blâme sur le client. Mais le premier constat à faire, c'est d'évaluer et d'être conscient de sa propre posture, sa propre lunette culturelle avec laquelle on arrive comme intervenant. Parce qu'on peut être en position ou dans une position où est-ce qu'on se retrouve face à une différente culture devant soi et on est un étranger. Mm-hmm. On est plutôt étranger à l'autre culture, alors il faut vraiment se positionner en apprenant et être conscient de sa posture personnelle en premier lieu. Et c'est ce que les pionnières, comme Monique disait, ont fait. Et c'est un peu la base de cet outil-là, c'est d'être conscient de soi et d'être ouvert à l'apprentissage.
C'est intéressant parce que vous me direz si je me trompe, mais il y a des gens, il y a toujours des pommes pourrites là, dans un panier, mais je pense que la majorité des gens qui sont dans le système de santé, c'est des gens qui veulent aider, ils font don de soi, c'est des heures, en tout cas, ça, on en entend beaucoup parler, mais c'est pas un ouvrage qui est facile. Cet outil-là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pourraient commettre des bourdes un peu, faire des erreurs, froisser certaines personnes, justement, puis c'est pas parce qu'ils sont racistes ou qu'ils sont déshumanisés ou qui font partie de ce racisme systémique, mais c'était tellement justement une culture différente ou une approche différente que sans même le vouloir, ils vont froisser la personne avec qui ils sont. Fait que, je pense que c'est justement nécessaire de repartir à la base parce que même si les gens sont bien intentionnés, ben ça prend peut-être des outils de plus dans son coffre pour être pour bien. Comme on le fait avec en éducation, si on a des enfants qui ont un TDAH, des enfants qui vivent plein de difficultés ou d'enjeux différents, mais il faut être formé pour bien s'attaquer à ces enjeux-là, bien les cibler, les comprendre et adapter notre approche à leur réalité. C'est parce que le Québec n'accepte pas le mot racisme systémique. J'imagine que si on en parle avec vous, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a du racisme systémique?
Absolument.
Mais malgré tout, c'est un outil parce que même les gens qui le font sans le vouloir, ben là, ça devient un bel outil pour dire « Ah, OK, on va repasser, je l'ai dit tantôt, mais sur de nouvelles bases. » Cet ouvrage-là, est-ce qu'il est déjà dans les mains d'étudiants?
Il a été publié là, en mars dernier, donc j'imagine que oui, là, il est disponible et je sais qu'il va être déployé là, pour les futures classes de travail social, donc okay. Septembre, j'imagine, septembre, puisque c'est sûr qu'au courant de mars, la session était déjà commencée. Mais l'outil est déployé et c'est sûr que au passage, là, je peux souligner
oui.
le travail.
Allez-y,
en fait,
parce que vous n'êtes pas seul là-dedans.
Exactement, on est quatre auteurs, donc ma collègue Marina Trévisan, Monique Chabot, ma collègue ici présente, et Kira Bellage-Diane et moi-même, Isabelle Perrier. Donc, ma collègue Marina Trévisan, qui est enseignante là, au module de travail social à l'UQAT, à l'Université d'Abitibi-Témiscamingue, au campus de Mont-Laurier. Okay. Je sais que ce sera un outil qui sera développé et déployé là, dans ces classes-là. Donc oui.
C'est pas facile, par exemple, faire changer les choses. Est-ce que vous pensez qu'un ouvrage comme celui-là, c'est suffisant pour briser des vieilles mentalités ou ça, plus le temps qui va faire son œuvre, des gens qui vont partir à la retraite, des gens qui vont être formés avec des nouveaux outils, c'est tout ça un peu qui va faire en sorte qu'un jour, on va arriver au résultat. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Chabot?
Exactement. Ça fait partie des 94 recommandations de la vérité et réconciliation. C'est l'éducation. Même aujourd'hui, moi-même, j'ai été victime de me faire arracher les dents sans la permission de mes parents.
Wow.
J'ai été vaccinée, j'ai eu des égratignures dans le dos sans la permission de mes parents. Donc, c'est tout récent. qu'on avait des agents qui représentaient des affaires indiennes. On les appelait les Indian Agents. Puis ça fait pas tellement longtemps qu'on n'a pas, parce que moi, je m'en souviens encore de cette personne-là qui était pas autochtone, mais qui venait dans la communauté pour nous dire qu'est-ce qu'on pouvait et pouvait pas faire. Donc, ça fait partie d'un gros morceau pour nous, de pas avoir confiance aux médecins, de pas avoir confiance ou une peur des dentistes.
Ben, ça se comprend,
d'avoir
là.
Peur de...
C'est pas des peurs imaginaires, là. C'est ça l'affaire, là.
C'est
concret,
mais
c'est ça.
Je le sais. C'est des traumatismes, et c'est pour ça qu'il faut connaître l'historique de où ce qu'on devient. Je sais qu'on en parle beaucoup de l'école résidentielle, mais on est encore loin de venir à une génération que moi, je ne verrai pas dans ma vie, que ma petite-fille ne verra pas la fin de ces impacts-là.
Oui, c'est ça.
T'sais, les impacts sont là, sont encore très présents. Quand on arrache des enfants d'une famille et qu'ils sont élevés dans des pensionnats ou qu'ils sont abusés, ils perdent leur habilité parentale, leur confiance en leurs parents, leur confiance en soi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des communautés qui sont tellement en difficulté parce qu'ils ont perdu ça. Et c'est difficile, mais c'est facile à juger que, oui, les personnes autochtones consomment, ils ne sont pas éduqués.
Il faut se regarder le nombril un petit peu avant de juger les autres, là.
Oui, exactement, parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai eu une discussion avec quelqu'un de la communauté des Kiligandibi qui disait exactement ça. Parce que on va des fois juger par l'apparence. On peut avoir des parents autochtones qui vivent dans une belle maison, qui ont chacun un travail, qui ont des voitures, et ils peuvent consommer le soir, socialement. Puis, il peut avoir une famille qui n'ont pas de travail, qui vivent parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter toutes les autres choses. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas d'emploi. Ils boivent, mais peut-être parce qu'eux ont moins que l'autre famille, ils vont être plus impliqués des fois dans des situations problématiques, par exemple. Fait que des fois, on a des préjugés. En toi, tu ne travailles pas, donc tu consommes.
C'est ça, comme s'il y avait une différence entre des bons autochtones puis des moins bons autochtones. Ils ont fait des classes que, ça, c'est des autochtones, mais c'est comme des blancs un peu. Ils vivent à Kitigan-Zibi, mais ils travaillent, ils ont une voiture, ils sont comme nous autres. Puis les autres, ça, c'est l'autre gang. Mais tu sais,
c'est ça. Je crois qu'il y a un aîné qui avait dit à un moment donné que la réconciliation commençait entre nous. Entre nous, les Premières Nations. On est premièrement divisés. On n'a pas toutes les mêmes choses au point de vue monétaire, les infrastructures.
Dans les communautés, il y a des inégalités. Kitigan-Zibi est une très belle communauté.
Oui, c'est un bel exemple, mais il y a quand même des difficultés aussi. Le lac Rapide, c'est une communauté algonquine comme nous, qui sont isolés.
C'est ça.
Ils ont moins de services.
Exact.
Mais on a les mêmes problèmes. Les problèmes d'abus, les problèmes de consommation sont là quand même, excepté que c'est deux images différentes. Donc, il faut être plus ensemble, plus unis et moins divisés.
Bien, Monique Chabot, vous êtes intervenante sociale. Isabelle Perrier, vous êtes travailleuse sociale et toutes deux co-auteurs avec deux de vos collègues, je le rappelle, mais d'un chapitre qui porte en fait d'un ouvrage qui s'appelle « L'intégration de l'évaluation du fonctionnement social au champ de pratique affilié ». Tout ça, un travail avec l'Université du Québec en Outaouais. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui avec nous et c'est une pierre de plus justement pour faire ce pont de la réconciliation et adapter puis vivre ensemble en communauté sans qu'il y ait de friction, puis dans le meilleur des mondes. Donc, merci beaucoup.
Miigwetch.
Merci beaucoup.
Dans les prochaines minutes, on parle santé avec Jean Pigeon et les porte-parole d'SOS Outaouais. Qu'est-ce que c'est? On en parle dans un instant.